justement, nous arrivons à la partie la plus importante de notre réunion ce matin. Ce n'est pas moi, c'est la lecture publique de la Bible. Et Patrick va nous lire le Daniel chapitre 1. Merci Patrick.
La troisième année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Pénaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquiers. Il voulait les former pendant 3 ans à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abednego. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, « Je redoute mon Seigneur le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël et Azaria. Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis, agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris de poids que les jeunes gens qui mangeaient les plats servaient la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes à la place. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel, jusqu'à la première année de règne de Cyrus.
Merci Patrick. Aujourd'hui, nous allons pencher sur le livre de Daniel, un homme qui a vécu il y a plus de 2500 ans, dans un pays qui est aujourd'hui en plupart l'Irak. Vous pourrez penser que l'histoire de sa vie n'a pas grand-chose à nous apprendre. Nous n'avons pas grand-chose en commun. Mais il y a 3 domaines dans lesquels nous pouvons apprendre des leçons vitales pour nos vies chrétiennes aujourd'hui. La première, c'est comment vivre comme peuple de Dieu dans une société hostile. La deuxième, c'est l'exemple de Daniel sur la façon d'être un serviteur fidèle de Dieu et du roi. Et la troisième, comment la vie et le témoignage de Daniel ont transformé les relations entre le peuple de Dieu et ceux parmi lesquels il habitait. Permettez-moi de vous poser ce matin une question. Pourquoi êtes-vous à l'église aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que c'est une habitude? En effet, c'est une très bonne habitude de venir à l'église chaque semaine. Est-ce parce que dans le Nouveau Testament, il nous est commandé de nous rencontrer régulièrement? Et évidemment, nous devons obéir au commandement de Dieu dans sa parole. Peut-être s'agit-il de s'unir pour louer le Seigneur en priant et en apprenant ce qu'il a à nous dire à partir de sa parole. Bien sûr. Je pense que toutes ces raisons sont parfaitement bonnes et j'espère qu'ils s'appliquent à nous tous. Mais il y a une autre. Nous nous réunissons parce que nous sommes une communauté du peuple de Dieu et que nous vivons dans une société où la majorité des gens ne reconnaissent pas la seigneurie de Jésus-Christ ni la vérité de la révélation de Dieu. Pensez au contraste de deux personnages bibliques, Abraham et Daniel. Comme avec Abraham, Dieu nous appelle à devenir ses disciples, à faire confiance à ses promesses et à vivre comme son peuple élu. Mais Dieu nous appelle aussi à être comme Daniel et ses amis, qui ont été envoyés pour être les témoins de Dieu dans une société qui ne reconnaissait pas leur Dieu. Mais ils devaient obéir à la loi de Dieu là-bas et travailler pour le bien commun en tant que serviteurs fidèles de l'empereur, mais avec leur plus grande loyauté et leur mode de vivre focalisé sur Dieu. Lorsque vous rencontrez des non-chrétiens au travail, au collège, dans le bus, dans la rue, n'importe où, vous êtes dans un environnement généralement hostile à l'Évangile. Beaucoup de gens dans cet environnement général nieraient que c'est hostile et diraient plutôt que c'est neutre. Un environnement où toutes les religions peuvent être discutées, évaluées et jugées selon leur mérite. D'autres diraient que dans un environnement public, les questions de foi ne devraient pas du tout être discutées. C'est une neutralité un peu bizarre, n'est-ce pas, qui nous interdit de discuter certains sujets. Il y a même des gens qui pensent que la loi française interdit des telles discussions publiques, ce qui n'est pas du tout le cas. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, ne rentre pas dans ce genre de cadre. Il n'est pas soumis à l'analyse. Il se révèle à travers ses puissantes œuvres de création, de rédemption et de révélation à travers sa parole, la Bible. Jésus a dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, vous ne choisissez pas votre religion comme vous choisiriez un livre dans une librairie, selon vos préférences personnelles. Vous devenez plutôt chrétien en obéissant à l'appel de Dieu et à sa révélation dans la Bible et dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a donc un conflit inévitable entre la foi chrétienne et la société occidentale. Bien sûr, dans certains pays, comme la Chine, Corée du Nord, Iran, Arabie Saoudite, et bien d'autres, le gouvernement est activement hostile au christianisme et les chrétiens sont sévèrement persécutés, qu'il s'agisse du rejet passif de la foi chrétienne dans les sociétés occidentales ou de persécutions actives ailleurs. Les chrétiens vivent dans un environnement hostile. Et c'est pourquoi nous pouvons apprendre beaucoup de l'expérience de Daniel et de ses amis. Bien que Daniel soit né en Israël, probablement juste avant l'an 600 avant Jésus-Christ, il a vécu presque toute la vie en exil dans le puissant empire de Babylone. Pendant de nombreuses années, Dieu avait averti les rois et le peuple de Juda et d'Israël qu'ils seraient jugés à cause de leur désobéissance. Lorsque le jugement est tombé, les gens étaient complètement désolés. Dieu les avait-il complètement abandonnés? Les dieux des Babyloniens, est-ce qu'ils étaient plus puissants que leur Dieu? Comment cela a-t-il pu arriver? Vous pouvez lire dans votre Bible ce qu'ils ressentaient dans le livre des Lamentations. Le titre de ce livre en hébreu, c'est « Comment ?» Comment ? Le premier mot du livre, « Comment ?» Comment ça a-t-il pu arriver? Comment Dieu a-t-il pu nous abandonner? Comment pouvons-nous vivre maintenant que Dieu nous a rejetés? Comment? Pourtant, dans le livre de Daniel, nous voyons que le peuple fidèle de Dieu peut survivre à cette immersion et à cet assujettissement dans une société hostile. Alors Daniel a beaucoup à nous apprendre, parce que nous aussi, en tant que peuple de Dieu, vivons dans une société qui considère le christianisme comme faible et insignifiant. D'après ce que nous lisons dans chapitre 1, vous pourriez vous attendre à ce que Daniel et ses amis aient été complètement coupés de leur héritage juif et spirituel. Le roi Nebuchadnezzar a même ordonné que leur nom soit changé pour montrer qu'ils appartenaient maintenant à son empire. Chaque fois que vous voyez le nom de quelqu'un dans la Bible qui termine avec des lettres E-L, cela fait référence au nom de Dieu. Et Daniel, en hébreu, signifie « Dieu est mon juge ». En revanche, le nom babylonien donné à Daniel, Belteshazzar, signifie « que le dieu Beltis protège le roi ». En effet, « vive le roi !» Un nom très patriotique pour un babylonien. Bien sûr, il y avait beaucoup de dieux en Babylone. Donc, vous ne pouviez simplement dire « Dieu sauve le roi », il faut préciser le nom de Dieu qu'on invoque. Et les dieux de Babylone étaient différents du Dieu d'Israël. Ils étaient construits des matériaux élémentaires de l'univers. Notre Dieu, le Dieu d'Israël, a lui-même construit l'univers. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, dit Jean. Un conflit total avec le matérialisme de la société babylonienne, parallèle avec le conflit entre la foi chrétienne et la société matérialiste de nos jours. Les garçons hébreux amenés en Babylone comme des prisonniers, étaient obligés de se conformer à la culture babylonienne et non à la culture hébraïque, d'être formés comme de bons citoyens de l'Empire et non plus du peuple de Dieu. Daniel et ses amis étaient entourés de gens qui ne savaient rien de leur croyance, rien de leur foi. Comment pensez-vous qu'ils ont répondu à ce défi? À notre avis, comment devrions-nous réagir lorsque nous sommes parmi les personnes qui ne connaissent pas le Dieu du Seigneur Jésus? Comment devrions-nous vivre dans une société qui ignore les revendications de Dieu? Dans la prophétie de Jérémie, chapitre 29, verset 7, nous voyons les instructions de Dieu qu'il avait données aux exilés. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. C'est Dieu, pas les Babyloniens, qui a envoyé Daniel et ses amis dans ce pays étranger. Ils étaient là pour servir les Babyloniens et l'empereur, mais surtout le Dieu qui s'occupait d'eux. Regardons le passage et voyons ce qui s'est passé. Daniel et des amis ont de nombreuses raisons d'être reconnaissants envers les Babyloniens. Ils étaient bien traités. Ils avaient une éducation de première classe et ils recevaient les meilleurs aliments de la table du roi. Ils auraient fait partie d'une groupe de jeunes hommes et garçons de nombreuses nations différentes, tous conquis par les Babyloniens et recevant une éducation et un endoctrinement culturel de qualité supérieure, afin de les transformer en hauts fonctionnaires de l'Empire. Ils seraient les énarques de Babylone. Évidemment, les hauts fonctionnaires doivent avoir des valeurs communes, les valeurs du roi. Qu'en est-il de nous? Nés dans ce que beaucoup de gens appelleraient une société post-chrétienne, nous sommes également confrontés à des pressions pour nous conformer, obéir, accepter les valeurs de la majorité et peut-être faire des compromis sur notre foi. Comment est-ce que nous allons réagir? Trois possibilités. La première, ne pas réagir du tout. Dimanche, c'est dimanche. Je vais à l'église. Lundi à samedi, je suis exactement comme tout le monde. Un chrétien secret. Mais Jésus nous dit en Matthieu chapitre 6, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Que votre lumière brille. Deuxième possibilité. Certaines personnes pourraient réagir en essayant de se retirer complètement. Ce n'est pas une idée nouvelle. On la voit tout au long de l'histoire de l'Église, avec les gens qui sont devenus des ermites, ou qui ont rejoint des institutions comme des monastères. Dans une moindre mesure, nous le voyons lorsque des groupes de chrétiens refusent de s'engager avec des non-chrétiens, évitant de participer à la société, refusant peut-être de voter aux élections ou de reconnaître l'autorité des gouvernements. Peut-être ne jamais lire un journal ou s'intéresser à l'actualité, même en refusant de parler avec d'autres membres de leur famille s'ils ont des opinions pas conformes avec nos avis, soi-disant corrects. Daniel n'a pas fait ça. Il avait une grande foi que Dieu serait capable de le protéger en toutes circonstances. Ce que nous pouvons voir à ces occasions où il refusait, par exemple, de manger les aliments qu'il considérait comme impurs, ou de prier, non pas au Dieu vivant, mais au roi Darius, en chapitre 6. Nous n'avons pas lu ça, mais vous pouvez le lire chez vous. Mais en revanche, pendant la plupart de sa vie, Daniel fut un serviteur loyal qui traita le roi avec beaucoup de respect et beaucoup de considération. Regardez encore chapitre 1 et voyons comment Daniel traite la situation où il y a un conflit entre sa foi et les exigences de l'autorité. En tant que juif pratiquant, il voulait s'en tenir aux règles alimentaires observées par les juifs depuis l'époque de Moïse. Et il se méfierait de la nourriture, en particulier de la viande qui a été offerte aux idoles. Les juifs avaient reçu une mission spéciale de Dieu pour proclamer sa gloire parmi les nations. Mais aussi, dans la promesse faite à Abraham d'être une bénédiction pour les nations. Manger des aliments différents était une façon de montrer qu'ils étaient différents et spéciaux pour Dieu. Maintenant, nous savons, d'après ce que Paul nous écrit dans 1 Corinthiens chapitre 8, que la nourriture n'est pas un gros problème pour les chrétiens. Bien que nous remarquions également que dans le livre des Actes, certains chrétiens pensaient que les lois alimentaires étaient toujours importantes. Le point à propos de Daniel, c'est que l'observation des lois alimentaires était l'une des choses qui identifiait clairement avec le peuple de Dieu. Et pas nécessairement seulement avec les garçons juifs bien soignés à l'université de Babylone, mais aussi les esclaves hébreux, également emmenés en captivité et forcés de travailler pour le roi. Ainsi, Daniel avait raison de refuser de manger la nourriture royale, même dans la mesure où il est devenu végétarien. La loi mosaïque ne l'exige pas. Mais c'était le moyen le plus simple d'éviter les choses qu'il ne voulait pas manger. J'ai un soupçon que Daniel était quelqu'un qui apprécierait un barbecue. Il n'a proposé d'être végétarien que pendant 10 jours. Ce que j'aime particulièrement chez Daniel dans cette situation, c'est qu'il propose de faire l'objet d'un essai clinique contrôlé. Il veut démontrer que l'obéissance à son Dieu est en fait plus précieuse que la meilleure nourriture du roi. Mais il tient également à ce que son superviseur ne se mette pas dans le trouble. Le superviseur a été étonné du résultat de l'expérience. Daniel et ses compagnons se sont avérés être bien mieux nourris avec le régime de légumes que le reste des étudiants qui pouvaient avoir tout ce qu'ils voulaient. Peut-être que cela signifiait que tous les autres étudiants dînaient chaque jour au chocolat, au caviar et au champagne. Auquel cas, nous ne devrions pas être trop surpris du résultat. Vos amis non-chrétiens peuvent penser que en tant que chrétien, vous êtes très limité. Tout comme Daniel était limité dans son alimentation. Peut-être qu'ils pensent qu'eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais peut-être qu'ils ne choisissent pas de bonnes choses. Peut-être que leurs choix leur sont en fait préjudiciables. Dieu donne de bonnes choses à ses enfants. Et nous n'avons pas à craindre que l'obéissance ne soit pas bonne pour nous. Je suis certain que parmi ceux inclus dans l'expérience se trouvaient les trois amis hébreux de Daniel, également nommés en chapitre 1. Les mêmes qui se sont préparés en chapitre 3 à désobéir l'ordre d'abhorrer le statut d'or. Vous êtes-vous déjà demandé où se trouvait Daniel lorsque ses trois amis ont été jetés dans la fournaise ardente? Vous êtes-vous déjà demandé où étaient les amis quand Daniel était devant le superviseur, questionnant la valeur de la nourriture du roi? Assurément, dans ces deux situations, Daniel et les trois autres étaient unis pour se soutenir mutuellement et prier les uns pour les autres. C'est une autre raison pour, très forte pour laquelle nous devons nous réunir en tant que chrétiens à l'Église. Jésus n'a jamais voulu que ses disciples vivent isolés de leurs frères et sœurs chrétiens. Et c'est à travers l'Église qu'il a fondée, dont nous sommes tous des membres, que nous pouvons recevoir le soutien les uns des autres, ainsi que l'enseignement de la Bible. Ne négligeons pas cela. Que Dieu nous empêche de penser que nous n'avons pas besoin de nos frères et de nos sœurs en Christ. Malgré la volonté de Daniel et de ses amis d'être considérés comme différents, Dieu les bénit et montra aux fonctionnaires du roi qu'il s'agissait de jeunes hommes intègres, prêts à se consacrer au service du roi. Nous pouvons voir ce que les fonctionnaires n'ont pas vu, qu'ils pouvaient se consacrer au service du roi parce que ils servaient en fait le roi des rois. Nous devrons nous demander, travaillons-nous pour le roi des rois de manière à ce que les gens reconnaissent notre intégrité, de manière à montrer que nous sommes soumis à Dieu en première place, de manière à soutenir les hommes, les normes de vérité, de justice et d'amour. Faire respecter ces valeurs dans la vie quotidienne ne signifie pas que nous ne rencontrerons pas d'opposition. Daniel et ses amis avaient des ennemis qui essayaient de les faire tomber. Mais la seule façon qu'ils pouvaient faire ça, c'était d'attaquer leur foi en Dieu. Regardez en chapitre 6, verset 6, ils n'ont trouvé aucun autre moyen de porter une accusation contre lui. Seulement sa foi. Ici, nous avons non seulement un témoignage de la qualité de la vie de Daniel et ses amis, mais aussi une préfiguration de ceux qui ont injustement accusé le Seigneur Jésus. Regardez en chapitre 6, Daniel avait servi Nebuchadnezzar fidèlement tout au long de son règne. Et Nebuchadnezzar a maintenant été remplacé par un nouveau roi, Darius. Telle est la réputation de Daniel que le nouveau roi lui accorde autant d'importance que son prédécesseur. Vous pouvez le voir au chapitre 6, verset 15. Les ennemis de Daniel avaient manipulé la loi et un nouveau roi inexpérimenté, de telle sorte que maintenant Daniel est menacé par la peine de la mort. Le roi est très contrarié que Daniel puisse être tué. Il reconnaît en Daniel un homme fidèle, d'intégrité qui a bien servi le royaume pendant toute sa vie. Après que Daniel soit enfermé avec les lions, le roi lui-même descend de bonne heure le lendemain pour voir le résultat. Il reconnaît que c'est le Dieu de Daniel qui l'a protégé. Et nous lisons au verset 27 l'ordre du roi que le nom du Seigneur soit respecté partout dans son royaume. Considérez simplement où cette histoire a commencé, avec quelques jeunes garçons enlevés d'un royaume vaincu et forcés dans une culture dans laquelle ils étaient des étrangers et dans laquelle même le nom de Dieu a été retiré de leur nom. Et maintenant, 70 ans plus tard, ce pays est transformé en un pays où le nom du Seigneur est reconnu, respecté et reconnu par le roi et le royaume tout entier. Vous connaissez probablement que Daniel, uniquement en tant que personnel de la Bible, mais je parle il y a quelque temps avec un ami musulman, iranien. J'ai mentionné le nom de Daniel. Oui, bien sûr, j'ai entendu parler de Daniel, dit Mohamed. C'était le premier ministre de mon pays, un très grand homme. Nous devons prier pour que Dieu élève des hommes et des femmes chrétiens dans notre société qui auront la fidélité de Daniel, le courage de Daniel, la sagesse de Daniel pour savoir quand agir. L'intégrité de Daniel dans leur vie, dans leur travail, et l'accomplissement de la vie de Daniel en apportant de l'honneur, de la gloire et de la reconnaissance au Dieu souverain que nous servons. Comme Daniel, nous vivons en effet dans un monde hostile. Mais dans la vie de Daniel, nous voyons comment sa confiance en Dieu lui a permis de vivre et de prospérer. Sa vie était une vie dans le service de Dieu, service des Hébreux exilés, du peuple babylonien et du roi. Au moment de sa mort, ceux qui étaient venus à Babylone comme otages, exilés et esclaves étaient reconnus comme un groupe honoré dans la société. Et surtout, Dieu lui-même était honoré, même par les Babyloniens païens. Pouvons-nous prier pour une transformation similaire dans nos vies et dans notre société ?